Manque de rigueur, de neutralité et de pertinence, le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme sur les émeutes suscite autant de réactions. Il est notamment le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Le syndicat des infirmiers et des aides-soignants des urgences est inquiet de la situation de la santé. Il s'est mobilisé ce matin devant le CHT. Une occasion de visiter les nouveaux locaux du centre d'initiation à l'environnement Porte de Fer. Il est ouvert jusqu'à 17h à l'occasion de la journée mondiale des zones humides. À l'étranger, le bras de fer se poursuit entre Washington et Téhéran. Les deux pays se livrent à un véritable yo-yo diplomatique. On les appelle les baby mafias. Reportage à Toulouse sur ces jeunes de 12 à 16 ans qui multiplient les cambriolages dans les magasins. Et puis les lunettes de soleil d'Emmanuel Macron font le buzz. L'entreprise jurassienne qui les fabrique voit son carnet de commandes exploser. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal que l'on prolongera avec le magazine des sports du lundi. Bonjour Michael Givneski.
Bonjour Jean-François.
Parmi les événements sur lesquels nous reviendrons, bien sûr, la fin de l'Open de Melbourne et la victoire de Carlos Alcaraz.
Oui, un duel de génération qui a souri à la jeunesse. Carlos Alcaraz qui a dominé Novak Djokovic en 4-7 à 22 ans. L'Espagnol, numéro 1 mondial, a gagné le seul titre en Grand Chelem qui lui manquait en Australie pour devenir le plus jeune joueur de l'histoire à avoir gagné les 4 majeurs dans sa carrière avec 2 ans d'avance sur son idole. Un certain Raphaël Nadal.
Et puis on fera le point évidemment sur le championnat de France de football de Ligue 1.
Et le PSG qui a repris sa place de leader du championnat. Une victoire serrée aujourd'hui à Strasbourg sur le score de 2 buts à 1. Et voilà Paris qui ne lâche plus les commandes de la Ligue 1, suivi de très près toutefois par Lens, l'OM et l'OL.
Et puis dans la page consacrée au sport en Calédonie, nous parlerons cette semaine sport automobile.
Oui, plein gaz sur une nouvelle saison qui va débuter. Notre invité sera Rodolphe Marat, le président de la Ligue du sport automobile de Nouvelle-Calédonie. Nous évoquerons avec lui la saison 2026 des rallyes, du drift, du karting, mais aussi la sélection jeune de rallye qui sera mise en place cette année et l'appel aux bénévoles pour continuer de faire vivre la passion pour ces disciplines en Calédonie.
Le magazine des sports du lundi, c'est donc l'un des rendez-vous de ce début de semaine et c'est à retrouver dès la fin de ce journal. L'autre rendez-vous du lundi que l'on retrouve après quelques semaines de pause, c'est bien sûr la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que l'on retrouve tout de suite.
Les gauchistes sont de retour et ils sont à la manœuvre. Leur dernière publication, c'est le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, une officine qui se présente comme une autorité administrative indépendante, accréditée auprès des Nations Unies, mais qui ne semble avoir d'indépendante que le nom. Elle s'est auto-saisie de la situation calédonienne et elle vient de publier un avis explosif sur la gestion de la crise qu'a connue la Nouvelle-Calédonie en mai 2024. Une gestion dont elle explique doctement, dans un document de 28 pages, qu'elle a été essentiellement répressive, en jugeant que l'État n'a pas respecté plusieurs droits humains fondamentaux, excusés du peu. Pour sauver les apparences, la commission consultative a auditionné beaucoup de gens, mais si elle a écouté les représentants de l'État, elle ne les a manifestement pas entendus. Elle a eu en revanche une oreille très attentive aux mensonges, désinformations et propagandes qui lui ont été soufflés par les responsables indépendantistes, les membres de la CCAT et les calédologues engagés. Il en ressort une caricature de rapport qui enchaîne les contre-vérités et qui apparaît comme une véritable imposture. Il ne traduit en rien ce que les Calédoniens ont vécu lors de ces violences insurrectionnelles, ni les dramatiques dégâts provoqués par les émeutiers. Il faut dire que ce n'est pas ce qui intéresse la Commission. Elle n'a que faire des droits de l'homme, ni de la réalité des faits. Son prisme, c'est que les auteurs des exactions de mai 2024 sont des victimes et que l'État, les forces de l'ordre et la justice sont forcément des coupables. C'est ainsi qu'elle dénonce sans vergogne un affaiblissement préoccupant des droits fondamentaux affectant en particulier la population kanak dans un contexte marqué par des discriminations structurelles persistantes, de fortes inégalités sociales et une remise en cause du processus d'autodétermination mis en œuvre par le gouvernement. Tout est dit, la population kanak est une victime, elle subit des discriminations et des inégalités sociales, ce qui justifie les émeutes de 2024. Quant à l'État, il est son bourreau au travers d'un usage excessif de la force, de mauvais traitements et de violences en tout genre. Et en plus, il n'a même pas achevé le processus de décolonisation. Idéologisé, caricatural, affligeant, au point d'en être pathétique, ce pseudo-rapport fait en revanche l'impasse sur les victimes de mai 2024. Il ne les a pas vues, pas entendues. Pour lui, elles n'existent pas. La Commission ne parle pas de destruction d'entreprises, d'infrastructures publiques, de logements ou d'églises. Elle ne prend pas en compte la chute de 13% du PIB, ni le chômage massif et les problèmes sociaux qui en ont résulté. Elle n'a pas entendu parler des exactions, des barrages et de la peur. Elle est indifférente au traumatisme durable de la population calédonienne. Ce rapport indigne n'aurait pas dû voir le jour. Et on se demande quelle perversité intellectuelle, quelle mauvaise foi politique ou quelle ignorance absolue il a fallu pour le produire. Mais il faut aussi relativiser. Ce travail rejoindra sans doute les multiples rapports des nombreux experts et commissions qui ont écrit sur la Calédonie. Il est toutefois significatif d'observer l'écho qui lui a été donné par une certaine presse de gauche, toujours la même, qui poursuit sans même s'en cacher un combat idéologique. Il est invoqué également, sans surprise là non plus, par le FLNKS, qui y trouve un appui pédagogique bienvenu, lui qui est incapable de structurer sa doctrine et ses projets. C'est justement parce que le FLNKS est perdu que les idéologues de gauche se sentent obligés de s'agiter et de venir à la rescousse.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, je vous rappelle que vous pouvez aussi la retrouver évidemment sur notre site internet et que vous pouvez la réentendre, ce sera cet après-midi, juste après le flash de 16h, comme chaque semaine. Et ce matin, nous avons parlé de ce rapport controversé publié par la Commission nationale consultative des droits de l'homme en compagnie de Bastien Vandendijk, directeur de cabinet de la présidente de la province Sud et spécialiste en géopolitique et en relations internationales. La CNCDH s'est auto-saisie du dossier de la gestion par l'État de la crise insurrectionnelle du 13 mai 2024 et elle a auditionné de nombreuses personnes, des représentants de l'État mais aussi beaucoup d'indépendantistes. La présidente de la province Sud avait été sollicitée par la commission mais elle n'a pas donné suite et son directeur de cabinet nous a dit pourquoi.
C'est tout à fait simple, hein. La CNCDH produit des rapports idéologiques et Sonia Backès, comme Nicolas Metzdorf d'ailleurs, ont eu raison de ne pas vouloir être complices d'une telle chose. Donc ils ont décidé de ne pas répondre. Mais je crois que ce qui est à noter dans la démarche de la CNCDH et dans les gens qu'ils ont sollicités, donc on a vu 13 indépendantistes, dont deux de la CCAT, qui sont directement responsables des émeutes. Mais moi, ce que je souhaiterais identifier, c'est surtout les absents. Ils n'ont pas sollicité de soignants qui ont été touchés, ils n'ont pas sollicité de professeurs dont les écoles ont été brûlées, ils n'ont pas sollicité l'ACM, l'Association des citoyens mondoriens, qui représentent les mondoriens qui ont longtemps été bloqués. Ils n'ont pas sollicité le MEDEF, ils n'ont pas sollicité la CCI. Pourtant, dans les émeutes, on sait que les acteurs économiques ont été touchés au premier chef. Donc, cette liste traduit bien l'angle idéologique de la CNCDH et je crois que Sonia Backès et Nicolas Metzdorf ont bien fait de ne pas y répondre.
Et dans son avis, la Commission nationale consultative des droits de l'homme estime que la gestion de la crise a été essentiellement répressive et elle juge que l'État n'a pas respecté plusieurs droits humains fondamentaux. Le rapport parle d'une répression violente, parfois mortelle, ciblant plus particulièrement la population kanak, notamment dans la province sud. Pour Bastien Vandendijk, on assiste à une inversion totale des faits.
On n'a pas vécu la même crise que ce qu'ils décrivent. Alors déjà, permettez-moi de saluer l'action des forces de l'ordre, parce que je pense que même si elle a pu être un petit peu tardive, on sait bien que sans l'intervention de la justice, qui même si elle prend son temps, est vertueuse, on n'aurait pas rétabli l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas seulement ma position, hein. Le procureur Yves Dupas l'a dit récemment. Et effectivement, ça traduit encore une fois le positionnement de la CNCDH, c'est-à-dire un positionnement idéologique, tapé sur l'État tout le temps, taper sur la police, sur la justice tout le temps, et finalement victimiser les coupables. Je pense qu'effectivement, on n'a pas vécu la même crise, et finalement, le rapport donne à voir une inversion totale des faits, où les policiers ou les services de la justice qui ont rétabli l'ordre sont les coupables, et où les miliciens de la CCAT qui ont brûlé, qui ont pillé, qui ont tué notamment un gendarme, finalement sont victimisés comme des gens qui auraient subi la puissance arbitraire de l'État. C'est pas du tout ce qui s'est passé.
Le rapport se livre aussi à une mise en cause de la province sud, accusée d'avoir pris des dispositions qui s'apparentent à des mesures de rétorsion collective et il conclut par 6 recommandations très politiques, notamment celle de respecter pleinement l'intégrité du processus de décolonisation.
Bien évidemment, la Commission fait de la politique et elle a oublié de nous dire que les Mondoriens ont été privés de leur droit fondamental de circulation, qui est un droit qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont oublié de nous dire que les hôpitaux ont été bloqués, que ça a généré des morts qu'on n'est toujours pas capable de compter. Pourtant, l'accès aux soins est un droit universel. Ils ont oublié de nous parler des lieux de culte et des lieux de réflexion, les temples, les églises qui ont été brûlées, qui est pourtant un droit universel, le droit de conscience, le droit de penser. Donc, ils ont oublié tout un tas de choses et donc, la conclusion que j'ai, moi, c'est qu'en fait, soit ces gens-là, vu les lacunes, sont incompétents, ils ne connaissent rien finalement à la défense des droits de l'homme ou ils ne connaissent pas grand-chose à l'environnement de la Nouvelle-Calédonie en mai 2024, soit ils sont malhonnêtes parce que le parti pris de leur rapport est évident. Je pense malheureusement pour nous que la réalité est entre les deux, c'est un rapport qui est aussi malhonnête qu'indigne.
Une interview de Bastien Vandendijk, directeur de cabinet de la présidente de la province sud, qui est à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. L'actualité sociale et le ras-le-bol des personnels de santé du CHT, le syndicat des infirmiers et des aides-soignants des urgences, étaient de nouveau mobilisés ce matin devant le Medipôle, Nicolas Legrand.
Oui, des soignants qui portaient des brassards noirs et qui ont déposé des banderoles, mais aussi des cercueils en carton sur lesquels on pouvait lire « Là pour soigner les malades, pas pour être malade ». Ils estiment qu'ils n'ont pas été entendus par les pouvoirs publics malgré les nombreux débrayages et alertes répétées. Ils décrivent une situation extrêmement difficile pour eux et demandent à être mieux considérés. Ils regrettent notamment que les personnels recrutés en CDD à l'extérieur du territoire aient de meilleures conditions que les locaux. Yannick Roudot est le président du syndicat des infirmiers et des aides-soignants des urgences.
J'en ai marre en fait de répéter la même chose. Le discours, il est indiscutable en fait. Donc nous sommes très fâchés, lassés, abîmés, écœurés. On est dans une impasse. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Est-ce qu'on continue la même stratégie, à savoir dérouler le tapis rouge à l'extérieur et négliger les soignants locaux qui sont là depuis longtemps et qui auront tant donné aux services publics, qui auront été dévoués. Qu'est-ce qu'on attend de notre système de santé? Nous sommes confrontés à un manque d'attractivité, donc forcément des sous-effectifs, une saturation hospitalière, un manque de lits. Vous savez, c'est la cascade en fait, la cascade des problèmes. Et c'est pour ça qu'on explique qu'il faut sauver le système de santé en Nouvelle-Calédonie en remettant le soignant au cœur du sujet de santé.
Et dans les rangs des personnes mobilisées ce matin, certains craignent de nouveaux départs ou des arrêts maladie en cascade, ce qui provoquerait évidemment un effondrement du système de soins.
Le manque de reconnaissance a une limite. Nous sommes déterminés, nous sommes courageux, mais finalement, en vrai, nous ne sommes pas téméraires. Au bout d'un moment, on va en avoir marre, en fait, de répéter. Et quand on en a marre, eh ben, on fait autre chose. Et c'est ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Hein. Le monde nous le dit, hein. C'est avant tout pour la population qu'on fait ça. Hein. Vous pensez bien qu'on ne fait pas les rabat-joie. On dénonce un système à bout de souffle face à un immobilisme qui dure depuis 15 ans.
Le syndicat des infirmiers et des aides-soignants des urgences qui a prévu d'informer le public régulièrement devant les urgences et de manifester son ras-le-bol.
Et 11h43, une première pause de ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie. Nous reviendrons notamment sur cette coupure de courant sur le Grand Nouméa de samedi soir. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Revenons maintenant sur la coupure de courant qui a donc touché le Grand Nouméa samedi soir. Selon Enercal, la panne provient d'un défaut sur un câble souterrain situé entre Ducos et Coutiau qui a entraîné le déclenchement des protections électriques du réseau à Dumbéa, mais aussi du poste de Ducos, Michael Juneski.
Et par extension, cet incident a coupé l'alimentation de 2 points de livraison EC sur 5 à Nouméa, mais aussi le poste de livraison du Mont d'Or, ce qui correspondait à 40 000 foyers alimentés par EC. À Dumbéa, 2 000 foyers ont été privés d'électricité. Les équipes d'Enercal sont restées mobilisées pour isoler le défaut sur le câble souterrain et les foyers Dumbéa étaient tous réalimentés à 20h49 pour Nouméa et le Mont d'Or. À 19h31, Enercal avait relancé l'alimentation électrique normale des points de livraison EEC. L'opérateur a annoncé que l'ensemble de ses clients a de nouveau été réalimenté à 20h33. Les détails sur le travail de reconstruction du réseau qui a dû être effectué chez EEC avec Laure Leroy. Elle est la directrice des opérations d'EEC.
On a été impacté à 19h23, le samedi 31 janvier, avec la perte de 2 arrivées principales en fait, du Grand Nouméa, qui sont les 2 arrivées qui sont situées au poste EEC de Ducos. À peu près 19h30, Enercal nous a contactés pour nous informer qu'on pouvait commencer à reprendre de la charge sur ces 2 arrivées. Et donc à partir de là, on a commencé à réalimenter les clients. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a ce genre d'événement, la partie réalimentation du réseau de distribution, elle est assez longue, elle demande du temps pour permettre en fait, de reconstruire le réseau pas à pas et d'éviter les surtensions, protéger les appareils des clients et surtout d'éviter une nouvelle coupure générale. Dans ce cas-là, on a fait à peu près 100 de manœuvres sur le réseau, donc d'ouverture, de fermeture, pour permettre justement de réalimenter progressivement le réseau. Au total, les clients concernés ils ont été coupés entre 30 minutes pour ceux qui ont été coupés le plus brièvement et 1h10 pour ceux qui ont été coupés le plus longtemps. Bien sûr, on comprend tout à fait l'exaspération des clients vis-à-vis de ces coupures qui ont été très régulières, presque mensuelles depuis quelques mois. De notre côté, nous faisons le maximum dans ces cas-là et on travaille dessus également pour réduire les temps de coupure. Maintenant, voilà, il y a le problème d'Enercal qui, lui, est d'éviter l'origine du problème.
Laure Leroy, directrice des opérations de ECE. Au total, en ce qui concerne ECE, près de 45 000 foyers ont été impactés durant cette coupure de courant. De leur côté, les équipes d'Enercal poursuivaient ce week-end le travail de réglage sur le nouveau poste de Ducos pour éviter que cette situation ne se reproduise.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous exaspéré par la multiplication des incidents sur le réseau électrique calédonien ? Si cela vous exaspère, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Elles sont une réserve d'eau importante pour l'homme, mais aussi une impressionnante réserve de biodiversité. Les zones humides sont mises à l'honneur aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale qui leur est consacrée, journée relayée sur le territoire par le Centre d'initiation à l'environnement. Il ouvre ses portes toute la journée, Charlotte Coulson.
Ce qui caractérise une zone humide, c'est bien sûr la présence d'eau dans un secteur situé entre la terre et la mer. Zone de tampon, zone de reproduction, elles absorbent les excédents d'eau, rafraîchissent la température ambiante et offrent un lieu de vie pour de nombreuses espèces végétales comme animales. Vous connaissez les mangroves, les rivières, mais peut-être moins les dolines ou encore les ripisylves que l'on retrouve pourtant en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il s'agit de mettre ces écosystèmes à l'honneur et d'alerter, comme l'explique Fabienne Bourdeau, chargée de mission au CIE.
Alors clairement, dans le monde, les zones humides sont en voie de disparition. On a plus de 70% de ces zones qui ont disparu de la planète ou qui sont en très grave danger. En Calédonie, nos rivières notamment sont inquiétantes parce que la biodiversité disparaît. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand visuellement on voit que la biodiversité animale, végétale disparaît, c'est l'équilibre d'un milieu. Donc si ces zones-là, elles ne sont pas en bonne santé, ça veut dire qu'on doit être inquiet pour le reste aussi.
Est-ce que c'est tout l'intérêt d'avoir une journée mondiale qui leur est consacrée justement ?
Tout à fait. C'est alerter, mais pas que. C'est aussi dire qu'on peut vivre avec ces zones humides. Par exemple, la province sud a classé en 2014 la plaine des lacs Ramsar. C'est un label très important, comme on a les zones patrimoine mondial. Ce label-là nous rappelle la richesse, l'exceptionnel. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'on les met sous cloche. On vit avec, on doit les valoriser tout en les protégeant.
Et justement, pour valoriser ce patrimoine naturel, le CIE a aménagé un parcours éducatif au sein de son nouveau local à Porte de Fer. Le public peut découvrir une exposition photo autour de la faune et de la flore des zones humides en Calédonie, accompagnée de panneaux explicatifs et pour finir, une fresque participative, des animations qui vont attirer du monde ce matin.
Comme j'aime bien les animaux, on peut voir des animaux que moi je ne connaissais pas en photo. On peut voir des jolis paysages, c'est très beau.
C'est une fresque qui représente les zones humides et on nous demande de donner notre impression sur la qualité de ces zones humides. J'ai le marqueur vert, j'ai dit les mangroves ça va, la rivière c'est en bon état, les marais, les lacs. Et en rouge, j'avais mis surtout sous des pressions humaines, donc tout ce qui est agriculture, élevage, déforestation, feu. On n'en parle pas beaucoup, on ne connaît pas très bien ce que c'est, donc ça permet de mettre en valeur ces zones et de comprendre les enjeux et l'utilité aussi.
J'ai pu regarder toute la partie à l'intérieur, tout ce qui est gestion des zones humides en Calédonie, et je pense que c'est important de comprendre comment il faut gérer ces zones-là, sans pour autant tuer les espèces qui sont toutes dans ces zones-là. Donc non, c'est hyper intéressant.
L'adresse pour découvrir ces animations, 28 route Pierre Ronsard à Porte de Fer. Ce sont les nouveaux locaux du CIE qui restent ouverts jusque 17h aujourd'hui.
Vous le savez, sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas non plus de jour sans gagnant. Et aujourd'hui, par exemple, c'est Mélina de Conné qui a envoyé son SMS au bon moment, au 40-20. Elle a donc remporté 100 000 francs, 100 000 francs qu'elle peut dépenser où elle veut, comme elle veut. Alors si vous aussi, vous voulez être le prochain gagnant et gagner 100 000 francs, vous pouvez envoyer dès maintenant RRB au 40-20. Je vous rappelle que pour toutes les personnes qui n'ont pas encore gagné, il faut de la patience, bien évidemment, et surtout que tous les SMS envoyés sont remis en jeu pour le tirage du million. Tirage qui aura lieu le vendredi 13 février à 14h par tirage au sort. D'ici là donc, vous pouvez envoyer votre SMS RRB au 40-20. Vous pouvez donc gagner 100 000 francs et participer aussi au tirage au sort pour le million. Voilà, bonne chance à tous. L'actualité dans la région et la Nouvelle-Zélande fait marche arrière avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle vient d'interrompre en effet un important accord de développement en raison de l'insécurité qui règne en Papouasie. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
D'un montant supérieur à 600 millions de nos francs, le projet en 6 ans portait sur l'électrification d'une vallée retirée de la province d'Enga dans les hauts plateaux. Il visait à approvisionner en énergie plus de 4000 foyers de la région, d'ici 2030, ce qui aurait permis à 70% de la population papoue d'être ainsi raccordée au réseau électrique. Le ministère kiwi des Affaires étrangères a toutefois indiqué dans un communiqué que le projet vient d'être stoppé en raison de violences persistantes. En vérité, ces troubles sont tels que la police papoue s'est avérée incapable de les contenir. Le gouverneur de la province d'Enga, Sir Peter Ipatas, a même révélé que les guerriers tribaux font désormais usage d'armes modernes. Ils n'ont plus aucun respect pour l'autorité, a-t-il admis. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il sera 11h52 minutes dans quelques secondes. Une nouvelle pause et dans un instant, c'est toute l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvalet.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvalet.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En trois clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureauvalet, on met la barre très haut et les prix très bas.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'actualité à l'étranger, discussion contre menace. L'Iran et les États-Unis se sont livrés ces dernières heures à un yo-yo diplomatique, alternant une volonté de négociation avec un discours guerrier. L'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, alors que le pouvoir des mollahs se dit prêt à discuter, promet même un embrasement régional si les États-Unis menaient une opération militaire contre son pays.
Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale.
Les USA, de leur côté, continuent de montrer leur force après avoir déployé une importante armada dans le golfe Persique. Donald Trump a toutefois rappelé depuis sa maison de Floride qu'il espérait toujours trouver un accord. C'est donc une sorte de poker menteur auquel se livrent les deux pays, explique l'analyse en géopolitique Michel Fayette.
Les Iraniens souhaitent gagner du temps et veulent dire à Donald Trump, si vous nous attaquez, vous allez avoir des morts. Et de l'autre côté, Donald Trump sait très bien que les Iraniens veulent l'endormir et donc lui essaye de maintenir aussi cette pression. Vraiment, les deux adoptent une stratégie assez similaire. Les négociations est menacée. Qui gagnera à ce jeu-là, c'est compliqué de le dire tout de suite.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe. En métropole, la dernière étape pour le budget de la France est en effet dans la nuit de mardi à mercredi pour nous qu'il devrait être définitivement adopté. Le Premier ministre devrait une nouvelle fois avoir recours à l'article 49.3. Et puis toujours en métropole, une illustration de la délinquance des mineurs. À Toulouse, les commerçants sont victimes des baby mafias depuis quelques semaines. C'est ainsi que l'on appelle ces jeunes de 12 à 16 ans qui cambriolent la nuit et écument les rues de la ville depuis le mois de décembre. 17 d'entre eux ont déjà été interpellés. Le reportage de Charles Lullier pour Europe 1.
Dans cette rue, quasiment tous les commerces ont été visités, notamment le salon de thé de Nasrin, c'était le mois dernier.
Ça s'est passé dans la nuit, ils ont cassé la porte, il y avait un fond de caisse de 100 euros et ils sont partis avec. Donc j'ai enregistré l'image et je les ai.
Alors là, qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo?
Donc on voit trois jeunes, 10-11 ans. J'ai mon collègue juste à côté, lui aussi s'est fait cambrioler, il a même mis une affiche.
Une affiche placardée sur la porte d'entrée de la pizzeria que tient Léo.
J'ai mis un petit mot, caisse vide, merci, pas la peine de casser la porte. On est dans l'ubuesque.
Ubuesque, en effet. Surtout au vu du maigre butin récolté.
Ils ont cassé la porte. Et ce jour-là, il y avait 15 euros dans la caisse. Ça questionne sur l'éducation. Qu'est-ce qu'ils font dehors à cet âge-là? Et ils sont jamais poursuivis.
Même résignation pour les autorités et pour Cédric Politovitch du syndicat de police Alliance.
C'est des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans. Mais vu leur âge, le magistrat demande régulièrement de les relâcher.
Relâcher ou au mieux placer en foyer. Les moins de 13 ans, eux, ne passent même pas par la case garde à vue. Ce qui explique les nombreuses récidives. Ici. Toulouse, Charles Lullier, Europe 1.
L'actualité est politique en métropole et la campagne pour les municipales qui s'intensifie évidemment. Le scrutin est prévu les 15 et 22 mars prochains. On surveillera évidemment le résultat dans la capitale. Candidat Renaissance, Pierre-Yves Bournazel écarte à ce stade toute alliance avec la candidate LR Rachida Dati.
J'ai le projet le plus solide, une équipe très compétente, j'ai un programme financé.
4 milliards d'euros d'économies, Madame Dati propose 600 millions. C'est pas la même chose. Elle financera pas la sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, le logement ou le périscolaire. Et donc je dis une dernière chose. Vous savez, une élection, c'est pas de candidature unique. La démocratie, c'est la pluralité au premier tour. Au premier tour, on choisit son projet, on choisit sa vision. Et, ensuite, et au second tour, je tiens à le dire dans les sondages, je gagne plus largement que Madame Dati face à la gauche. Je suis élu depuis 18 ans à Paris et je pense que la dynamique que nous pouvons instaurer sera une dynamique gagnante.
Pierre-Yves Bournazel, candidat Renaissance pour les municipales à Paris. Et puis Emmanuel Macron, super VRP, des lunettes Pacifique S01. Depuis qu'il les porte pour un problème aux yeux, ces lunettes font le buzz en métropole, mais aussi dans le monde. L'entreprise jurassienne qui les fabrique, où s'est rendu Noé Chaillot pour Europe 1, est en train de changer d'échelle.
L'entreprise jurassienne de luxe Henri Julien, rachetée par un groupe italien en 2023, a expédié cette semaine 500 paires de ce fameux modèle, contre 4 à 5 par mois avant le buzz. Le modèle Pacifique S01, avec ses verres bleus et sa monture argentée façon Top Gun, s'exporte désormais partout dans le monde. Luca Marcuzzo, directeur de production.
On a eu un effet international. On a eu des commandes de l'Amérique sur ce modèle-là maintenant et sur les ventes. Donc on a eu un bon effet.
Face à cette explosion de commandes, les 10 employés de l'atelier jurassien s'adaptent et vont jusqu'à fabriquer 15 paires de ce modèle par jour. L'objectif de la marque est de faire rayonner les techniques traditionnelles de la région.
Pour maintenir le savoir-faire de Jura, notre lunette, elles sont faites à la main, un travail de fabrication manuelle.
Cet engouement a saturé le site internet de l'entreprise, qui a dû en ouvrir un autre spécialement pour ce modèle de façon temporaire. Et ces lunettes présidentielles sont également disponibles sur la boutique en ligne de l'Elysée au prix de 659 euros.
Voilà, 659 euros, c'est-à-dire près de 80 000 francs tout de même. Il est 11h57, c'est la fin du journal.